De retour en formule trio, et oui, Marie-Ève au micro, donc pour cette émission du 5 septembre qui se déroulera sous le signe de la rentrée universitaire et culturelle, parce que
c'est la fête.
C'est ce temps-là de l'année.
Ben oui.
Et c'est donc aussi par le fait même la 6e rentrée automnale des Apatrides Anonymes.
Ah oui.
Ben oui, j'ai regardé ça dans notre calendrier d'émission, et puis mais voilà, c'est notre 6e rentrée.
6e rentrée déjà, ouais. Hein, quand même.
Alors, ça nous rajeunit pas.
Non. Alors, ben, les Apatrides Anonymes, hein, c'est votre revue bimensuelle des actualités nationales et internationales en lien avec l'immigration, le racisme, l'extrême droite, les abus policiers, les enjeux autochtones et plus encore. Comme chaque fois, c'est un gros programme. Je suis toujours en compagnie, évidemment, vous les avez entendus, de Mathieu qui est à mes côtés en studio.
Bonsoir Marie-Ève.
Et de Simon qui assure la régie et qui va me rejoindre plus tard.
Salut!
Simon, toi d'ailleurs, tu nous parles des États-Unis et du Panama, en plus du racisme dans les écoles, la police et la population canadienne en général ici, c'est bien ça?
Eh oui, je vais essayer de condenser tout ça puis de rendre ça digeste.
En 3-4 minutes, genre?
Un petit peu plus, si tu m'accordes un peu plus.
Mathieu, toi, ça va être les Balkans. Et une région en Arménie dont on entend peu parler, hein?
Ben, on va parler, oui, du Haut-Karabakh. Il y a eu de l'action pas mal l'année passée, puis là, des petits suivis là-dessus. Puis je vais vous parler un peu aussi de la Serbie et de la Bosnie.
Puis sur la scène nationale et provinciale, tu revenais sur la valse d'annonces concernant les travailleurs temporaires.
Oui, le concours de qui est le plus sévère ou le plus rentre-dedans avec les travailleurs migrants entre Trudeau, Legault et toutes les autres autour.
Là, c'est ça.
C'est vraiment fascinant.
Puis de mon côté, ben, je vais vous présenter l'agenda antiraciste, bien foisonnant ce début septembre. Je vais aussi vous parler de l'augmentation des décès dans les prisons canadiennes, des difficultés que rencontrent aussi les artistes dans le processus d'immigration ici, et de la dure défaite en cour d'appel pour les maires Mohawks. Alors, je commence ça dans quelques secondes avec l'Union européenne. Il n'y a pas qu'aux États-Unis ou encore au Canada que migrent les personnes fuyant l'instabilité politique et économique ou encore la persécution et les violences dans les pays d'Amérique latine. Il y a un nombre grandissant d'entre elles qui se tournent vers l'Union européenne pour demander l'asile. Les Vénézuéliens et les Colombiens se retrouvent au 4e et 5e rang des demandeurs d'asile dans l'Union européenne, même après les Syriens, les Afghans et les Turcs. Et puis les Péruviens, eux, se classent au 10e rang. Et ça, ce sont selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations. Et comme c'est de plus en plus difficile d'émigrer vers les États-Unis, en fait, c'est que de nombreux Latino-Américains considèrent que la route vers l'Europe est plus sûre. Et il faut aussi dire que la majorité des pays d'Amérique latine ont conclu des accords d'exemption de visa avec l'Union européenne, ce qui fait que leurs ressortissants peuvent plus facilement se rendre en Europe pour demander l'asile. Par exemple, les Vénézuéliens, les Colombiens, les Péruviens bénéficient d'un accès sans visa à l'Union européenne pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.
OK.
Et donc, la principale destination, c'est l'Espagne, particulièrement pour les ressortissants du Venezuela, de la Colombie, du Pérou, de Cuba et du Honduras. Ça, c'est selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Et selon l'Institut national espagnol de la statistique, 44 000 Vénézuéliens sont rentrés en Espagne au cours du premier semestre, là, seulement de 2024, ce qui représente une moyenne d'environ 240 arrivées par jour et une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est nettement en augmentation. Faut savoir qu'environ 400 000 personnes nées au Venezuela vivent actuellement en Espagne, entre autres dans l'archipel des îles Canaries et à Madrid. Et selon les statistiques officielles espagnoles, les Vénézuéliens ont figuré même parmi les trois principales nationalités arrivées sur les îles Canaries entre avril et juin de cette année. Ils ont même représenté le plus grand nombre d'arrivées dans la ville de Santa Cruz de Tenerife. Et les Vénézuéliens en exil aux Canaries demandent d'ailleurs à l'Espagne d'accélérer les délivrances de permis de séjour et de travail sans qu'il leur soit nécessaire de demander l'asile. L'Agence européenne pour l'asile observe aussi des arrivées de plus en plus importantes des ressortissants péruviens, même si elles sont relativement faibles là, en chiffres absolus. Les 23 000 demandes d'asile déposées par des Péruviens en 2023 représentent quand même près du double du chiffre de 2022 et près de 4 fois plus que le nombre de demandes déposées en 2020. Par contre, il faut relativiser ces chiffres-là parce que, toujours selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, les demandes d'asile en Union européenne ont en réalité des taux d'acceptation très faibles. Jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, le taux de reconnaissance pour les Colombiens était seulement de 5 % en moyenne.
Okay.
Dans le cas des Péruviens, il était de 4 % et enfin, pour les Vénézuéliens, il s'élevait à environ 2 %.
Ah oui.
Donc, c'est le cas aussi en Espagne, c'est où la quasi-totalité des décisions en première instance déboutent les demandeurs d'asile latino-américains. Mais n'empêche que quand on prend en compte les programmes nationaux d'admission humanitaire, ben là, le taux de protection effective augmente considérablement.
OK, ça me surprend. Okay.
Puis peut-être en terminant, dire que, bon, comme je le disais, même si là, on voit que les Latino-Américains préfèrent l'Espagne aux autres pays de l'Union européenne, mais il y a quand même l'Italie qui fait partie des destinations privilégiées en plus de la France, de l'Allemagne et même de l'Islande.
OK.
Alors, Mathieu, le micro est à toi.
Oui, ben on s'en va pas mal ailleurs, c'est-à-dire dans le Caucase. Des extraits d'un bon reportage de Pivot sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « À Erevan, la nouvelle réalité des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh ». Erevan, c'est la capitale de l'Arménie. Donc, après avoir quitté le Haut-Karabakh pour s'installer en Arménie voisine, de jeunes réfugiés tentent de trouver leur place dans leur nouveau pays, entre guillemets. Mm-hmm. Après l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh en septembre dernier, environ 100 000 Arméniens ont fui vers l'Arménie, le pays officiel de l'Arménie.
Oui.
Parce que le Haut-Karabakh, c'était une enclave autoproclamée indépendante appuyée par l'Arménie, mais qui faisait partie à la fois de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie dans l'Empire soviétique, dans l'Union soviétique. Donc, quelques exemples. Jusqu'en septembre dernier, Diana vivait à Stepanakert, ancienne capitale, actuelle ou ancienne capitale du Haut-Karabakh. Il faut dire qu'elle n'est pas la première de sa famille à vivre un tel exil. En 1990, son père avait déjà fui Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, où il vivait jusqu'alors pour échapper à la série de pogroms anti-arméniens qui a eu lieu à partir de 1988, alors que le pays était une république de l'Union soviétique. Il s'est alors réfugié dans la capitale du Haut-Karabakh, où il a rencontré la mère de Diana. Tout ce qu'ils ont construit durant les années a disparu en une journée à l'époque, se désole-t-elle, leur fille. Au-delà du choc, les réfugiés doivent reconstruire leur vie en Arménie, où le coût de la vie est bien plus élevé qu'au Karabakh. Jusqu'au mois de mars dernier, le gouvernement arménien versait un montant mensuel de 50 000 dirhams, 125 $, à chaque réfugié pour les aider à couvrir leurs frais. Un montant jugé inadéquat en regard du coût de la vie à Erevan, où 40 % d'entre eux se sont réfugiés. Face à l'insuffisance de l'aide gouvernementale et aux nombreux besoins des réfugiés, plusieurs associations locales et internationales ont pris le relais pour les aider.
Ben oui.
Des problèmes psychologiques, de nombreux adolescents et aussi des adultes en font les frais. Durant le blocus du corridor de Latchin, avant que l'Azerbaïdjan reprenne donc le Haut-Karabakh, qui est donc le corridor qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, Nare, c'est le nom d'une jeune, aidait sans relâche sa communauté qui faisait face à des pénuries de médicaments et de nourriture. Ça a été un blocus qui a duré plusieurs mois. Comme beaucoup de jeunes réfugiés, Astakiot, c'est le nom en arménien, donc des gens, des habitants du Haut-Karabakh, elle paraît plus mature que son âge. Même si certains comptent rester en Arménie pour le moment, d'autres sont sur le point de quitter le pays. Il ne me reste plus rien de l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh en arménien, seulement des souvenirs, c'est désolé Petros. En juin 2023, lui et sa femme ont lancé une procédure de parrainage pour obtenir la résidence permanente en vue de s'installer au Canada avec leur famille qui est déjà ici. Nos parents avaient déjà vécu la guerre des années 1990. Nous ne voulons pas que notre enfant, notre enfant, le cycle continue.
Ben oui.
Même si Diana a observé beaucoup de solidarité et de compassion de la part des Arméniens en Arménie, depuis son arrivée dans la capitale, elle témoigne d'avoir entendu plusieurs personnes dire du mal des réfugiés du Haut-Karabakh, même s'ils sont du même peuple, entre guillemets.
Ouais.
Sinon, en Arménie, nouvelle de cette semaine, dans le Siounik, région frontalière de l'Azerbaïdjan et de l'Iran, des affrontements sporadiques éclatent entre soldats arméniens et azerbaïdjanais. La présence du peuple arménien y est millénaire, carrefour des influences perses et caucasiennes, le Siounik, région montagneuse du sud-est de l'Arménie, pourrait être le prochain théâtre d'affrontements militaires. Jouxtant le Haut-Karabakh, le Siounik est lorgné par le régime autoritaire d'Ilham Aliyev, qui est le président de l'Azerbaïdjan. Ces 4500 kilomètres de terre arménienne sont, pour l'Azerbaïdjan, un rempart qui le sépare de son enclave du Nakhitchevan, un territoire qui a déclaré son indépendance vis-à-vis de l'URSS et son rattachement à l'Azerbaïdjan en 1990.
OK.
C'est un peu compliqué comme géopolitique, là, mais
juste un petit peu mêlé.
Les gens pourront aller lire l'article de Pivot. Pour Bakou, qui ne cache pas ses ambitions de conquête, la prise du Siounik et de ses nombreuses réserves aurifères serait synonyme d'une victoire totale contre l'Arménie et d'une expansion territoriale sans précédent. Parce que, bon, l'Azerbaïdjan est appuyé par la Turquie. Originalement, l'Arménie est appuyée par la Russie, mais là, la Russie ne l'appuie plus. Donc, c'est pour ceux qui ont perdu la guerre l'année passée, là, au Karabakh. Et l'Azerbaïdjan profite pour essayer de prendre le plus de territoire possible.
Ah ben oui.
Puis c'est des ennemis historiques, donc voilà. Sinon, ben...
Mais l'Azerbaïdjan, est-il encore appuyé par la Turquie?
Ouais.
OK.
Oui, exactement. C'est pour ceux qui ont gagné, entre autres, l'année passée, là, okay. au Karabakh, ouais. Sinon, on bouge dans les Balkans un petit peu. Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants dans la Drina, une rivière frontalière entre la Serbie et la Bosnie, s'est alourdi à 12 morts. L'embarcation tentait de rejoindre la Bosnie, pays de transit sur la route des Balkans que les migrants prennent pour se rendre en UE, en atteignant notamment la Croatie, qui est membre. Mm-hmm. Plusieurs dizaines de migrants sont morts ces dernières années en tentant de traverser la Drina. Après l'accident, la police et les pompiers avaient retrouvé 18 survivants qui avaient réussi à rejoindre des berges, mais il y a eu 12 morts. Près de 100 000 migrants, dont 20 000 mineurs non accompagnés, ont emprunté en 2023 la route des Balkans contre 144 000 en 2022. Donc, ça avait baissé par rapport à, entre 2023 et 2022. Il s'agissait surtout de ressortissants syriens, afghans, turcs, marocains et pakistanais qui passaient entre la Bosnie et la Serbie. Sinon, dernière nouvelle que je voulais quand même souligner, ben nouvelle, le 11 juillet, ça fait quand même quelques semaines, marquait les 29 ans du génocide de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. En 1995, la ville bosniaque désignée comme refuge par les Nations Unies est tombée aux mains des forces serbes de Bosnie. Ces dernières ont massacré plus de 8000 hommes et garçons musulmans. Les corps des victimes ont ensuite été enterrés dans des fosses communes à la hâte. Les forces serbes les ont ensuite déterrés à l'aide de bulldozers pour disperser les dépouilles parmi d'autres sites funéraires afin de dissimuler les preuves de leurs crimes de guerre. En mai, c'est ça la nouvelle, les Nations Unies ont adopté une résolution faisant du 11 juillet la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica, une décision à laquelle s'opposent toujours les Serbes de Serbie et les Serbes de Bosnie. Le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, a déclaré récemment que le génocide était une imposture, car les Américains et certains autres en avaient besoin pour justifier leur bombardement des Serbes de Bosnie pour mettre fin à la guerre des années 90.
Ouais, c'est un peu simpliste, quand même.
Quand même, c'est pas subtil. Dodik, qui est président de la fameuse Republika Spartska, qui était l'entité des Serbes de Bosnie, a plusieurs fois nié ces derniers temps que ce massacre était un acte de génocide et a diminué le nombre de victimes volontairement. Le projet de résolution a été initié par l'Allemagne et le Rwanda, c'est pas par hasard, hein? Et dès le 11 juillet 2025, à l'occasion du 30e anniversaire du massacre, cette journée va être effective, donc dès l'année prochaine, pour les 30 ans du massacre, la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica.
Ben merci Mathieu.
Fait plaisir.
Il reste-tu encore des procès, genre, de dirigeants de l'époque?
Il y a des gens recherchés encore par la TPI, par le TPI, le tribunal,
pénal international
spécial pour les Yougoslavie. Il y a encore des gens recherchés, mais les deux principaux chefs avaient été retrouvés et condamnés. Il y en a un en prison, il y en a un qui est mort.
C'est ça.
Mais il y a encore des gens qui sont recherchés de la guerre en ex-Yougoslavie des années 90, oui. Mm. Ouais. Mais là, c'est la TPI ordinaire, c'est plus le tribunal spécial. Fait qu'on
pourra faire un petit dossier à un moment donné, 30 ans après,
exactement.
Qu'en est-il?
Oui, oui.
Ben moi, avant d'aller en musique, je vais vous faire traverser l'Atlantique pour revenir à Montréal, où les maires Mohawks ont subi un dur revers en cour d'appel du Québec à la mi-août. Dur revers, donc, dans leur lutte pour que des fouilles archéologiques aient lieu sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria, parce qu'elle soupçonne que des sépultures autochtones, plus particulièrement d'enfants, s'y trouvent. Il y a des fragments d'une botte qui avait d'ailleurs été trouvée là, en juillet 2023, si vous vous en rappelez. Le juge a infirmé donc la décision d'un tribunal inférieur qui obligeait l'Université McGill et la Société québécoise des infrastructures à respecter un accord conclu en 2023 avec les maires Mohawks et dont l'une des conditions était que l'Université et la SQI fasse superviser leurs travaux d'excavation par un panel d'experts en archéologie dans le cadre des fouilles. Pourquoi? Ben parce que les Mohawks craignent qu'en l'absence d'un panel d'experts, les potentielles sépultures puissent être endommagées ou détruites. Donc, la décision de la Cour d'appel se base en fait là sur une technicalité pour faire simple, parce que c'était un peu compliqué. Le juge considère qu'en statuant sur les droits des parties en vertu de l'accord, la Cour supérieure s'est arrogée de pouvoir, un pouvoir qu'elle n'a pas, c'est-à-dire celui de superviser l'application de l'accord sans qu'il y ait eu de véritable débat de fond. Tu sais.
Ouais, donc c'est technique. Ouais,
c'est vraiment technique. Ouais. Donc évidemment, les maires Mohawks sont très déçus de cette décision-là. Selon l'anthropologue Philippe Blouin, qui agit aussi comme traducteur et accompagnateur pour les maires Mohawks, le jugement, et je cite, n'aborde pas les questions plus larges de la réconciliation et de la manière dont les organismes d'État comme la SQI doivent mettre en œuvre ces fouilles dans une optique de recherche d'enfants autochtones disparus. Fin de la citation, parce que comme je disais, ben, le jugement s'appuie sur des aspects juridiques techniques, puis aussi des précédents qui avaient été établis dans des affaires d'entreprise, en fait, et tient pas compte donc de la sensibilité puis de l'urgence de la situation. Pour Philippe Blouin, la décision montre aussi qu'il existe un vide législatif dans la recherche d'enfants disparus. D'ailleurs, les maires Mohawks comptent prochainement contester la loi québécoise sur le patrimoine culturel, plus précisément les points là, concernant l'archéologie, parce qu'elle considère, elle la considère inconstitutionnelle puisqu'elle donne un pouvoir discrétionnaire au ministère de la Culture, puis aussi parce qu'elle ne tient pas compte des voix autochtones dans le traitement de leur propre héritage culturel. Elles évaluent aussi là, la possibilité de recours là, face à la décision, mais elles vont continuer évidemment là, de surveiller les fouilles sur le site. Puis nous, bon, on va continuer de surveiller le dossier et de le traiter, de vous faire des résumés
régulièrement. Ouais. Mais là, les fouilles vont diminuer de beaucoup, hein, j'imagine.
Oui, mais ils vont continuer.
Ouais, OK.
C'est ça. Là-dessus, ben, on va s'en aller en musique, prendre une petite pause. Ça fait quand même une vingtaine de minutes qu'on vous placote ça. On va écouter le duo rap féminin sénégalais Defma Madef, qui signifie karma en Wolof. On va entendre la pièce Kalanak, qui est tirée d'un micro-album, en fait, intitulé O Maliko, qui est paru en mai 2023. Elles étaient à Montréal en concert pour une première fois là, cet été, le 11 juillet, là, dans le cadre du Festival international Nuit d'Afrique. Puis ben, on va surveiller la sortie de leur premier album complet qui est prévu pour le début 2025. C'était la pièce d'EFMA Madef. Non, c'était pas la pièce, c'était la formation d'EFMA Madef avec la pièce Kalanak. Et sur ce, on rejoint Simon.
Salut Marie-Ève. Salut. Je vous parle de la Colombie dans un instant, mais d'abord un enjeu frontalier avec les États-Unis. Il y a le département de la sécurité intérieure à Washington qui a décidé unilatéralement d'apporter deux changements à l'entente des tiers pays sûrs. On resserre les règles actuelles pour les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada. Premier changement, les migrants doivent maintenant avoir en main et présenter immédiatement tous leurs documents relatifs à leur requête d'exemption à l'entente sur les tiers pays sûrs s'ils veulent être exemptés. Deuxième changement, le délai suite à la prise de contact avec les services frontaliers pour consulter un avocat ne sera plus de 24 heures, mais de seulement 4 heures.
Oh, OK.
Ça semble assez technique comme changement, mais ça a quand même des impacts.
Non, mais ça réduit considérablement.
Ça réduit ta possibilité d'être exempté de l'entente et de... Si l'agent frontalier états-unien détermine que la personne qui est devant elle ne satisfait pas aux exigences requises pour être exemptée, documents manquants, mal remplis, signatures qui manquent, la personne se verra refuser l'entrée dans le territoire des États-Unis et sera donc renvoyée au Canada. La réduction du délai pour consulter un avocat de 24 heures à 4 heures, plusieurs se demandent c'est quoi l'utilité exactement d'une telle mesure. On y voit finalement surtout une manière d'édulcorer les droits des migrants pour pouvoir accélérer leur renvoi vers le Canada, puisque c'est pas toujours possible de parler rapidement à un avocat ou même à son avocat si on en a déjà un qui est attitré. Ils sont pas toujours faciles à rejoindre, ces avocats. On y voit aussi une mesure qui chercherait à décourager les personnes migrantes à se présenter à la frontière pour effectuer leurs demandes, mais on l'a vu avec les réformes successives de l'entente, les différents jugements, les renégociations et même la fermeture du chemin Roxham, il n'y a à peu près rien, aucun élément dissuasif qui fonctionne vraiment. Au contraire, le nombre de migrants continue d'augmenter, que ce soit par les airs ou par la terre, et dans les deux sens. Bref, les ministres de l'immigration, autant au niveau provincial que fédéral, prennent acte de la décision de Washington, vont probablement devoir adapter certaines pratiques et émettre des directives, mais n'ont aucun pouvoir, évidemment, sur ces deux petites décisions imprévues de Washington. On reste aux États-Unis, mais loin du continent, à Hawaï. J'ai lu récemment un grand dossier dans l'espace autochtone de Radio-Canada, un bilan de la reconstruction suite au grand feu de 2023. Je sais pas si vous en rappelez, ça avait été vraiment dévastateur, surtout sur l'île de Maui. Des milliers de bâtiments détruits, plusieurs milliers d'hectares brûlés, une centaine de personnes tuées, et les communautés autochtones avaient été particulièrement affectés, surtout dans la région de Lahaina, je ne sais pas si je prononce bien, l'ancienne capitale royale avant que les colons arrivent, donc région culturellement très significative où se trouvaient beaucoup de monuments et de lieux historiques. Le quartier, le centre historique de Lahaina est complètement disparu aujourd'hui. Le dossier aborde plusieurs enjeux. On apprend que suite à une poursuite intentée par l'État d'Hawaï, le comté de Maui et la Société d'électricité hawaïenne contre le gouvernement fédéral, donc contre Washington, il y a une somme de 4 milliards de dollars qui va être versée pour l'effort de reconstruction, qui était partiellement bloqué depuis un an justement en raison des mésententes avec le fédéral. La crise du logement, qui était déjà grave avant les feux de 2023, elle s'est amplifiée suite à la perte de milliers de bâtiments, rareté qui a fait augmenter le prix des propriétés et des loyers de 80% en un an.
Aïe.
L'État a réservé des hôtels complets et construit des unités temporaires. Il y a pas mal de constructions actuellement, mais certains leaders autochtones constatent l'aspect un peu sauvage du développement actuel. Des terrains laissés vacants qui sont carrément appropriés par des promoteurs immobiliers privés, qui construisent complètement autre chose que ce qu'on trouvait avant. Des choses qui correspondent pas du tout aux besoins actuels de relogement et qui s'adressent pas du tout aux communautés autochtones. C'est souvent hors de prix, donc c'est destiné au tourisme et même au tourisme de luxe dans plusieurs cas. Ce qui fait même craindre une fuite possible des Autochtones de l'archipel hawaïen vers les États-Unis continentaux. Donc finalement, on voit ça un peu comme une deuxième vague de colonisation. Les quelques personnes qui ont eu accès à du logement temporaire de la part de l'État ont été redéplacées à plusieurs reprises dans des conditions jugées souvent difficiles ou en tout cas très instables, parfois avec promesses de relogement, parfois non, avec des avis souvent assez laconiques indiquant que la personne ou sa famille doit trouver elle-même un endroit pour se loger, avec des délais souvent très courts. Dans le dossier, on parle aussi d'adaptation, spécificité culturelle des communautés dans le cadre de la reconstruction. Bref, dossier à lire, je vous donne le titre. Hawaï, toujours en reconstruction, un an après des feux dévastateurs, c'est sous la plume de Philippe Granger. Dernière nouvelle, toujours en lien avec les États-Unis, mais on s'en va en Amérique latine, au Panama, dont le président nouvellement élu, José Raúl Mulino, entend à la fois multiplier les renvois de migrants qui visent les États-Unis, mais avec la frontière avec la Colombie, ouais. donc en montant vers le nord, et renforcer les dispositifs sécuritaires et de surveillance à la frontière. Tout ça suite à un accord très récent qui a été conclu avec Washington. Le 20 août dernier marquait plus ou moins le début de l'application de cet accord avec l'expulsion par avion vers Bogota, entièrement payée par Washington, de 29 personnes qui avaient traversé clandestinement la frontière panaméenne. Depuis le 20 août, il y a eu quelques autres vols de renvoi chaque semaine. Le nombre de passages clandestins entre la Colombie et le Panama, il est impressionnant, environ 500 000 par année.
Oh.
Ou 2 à 3 000 personnes par jour, principalement des Vénézuéliens, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'Amérique latine, mais qui, dans leur long parcours migratoire, ont d'abord atterri dans un autre pays de la région pour ensuite monter vers le nord. Donc, un peu l'inverse de ce que tu parlais avec les Canaries, qu'on voit des Vénézuéliens qui passent par les Canaries pour atteindre l'Europe. Là, on peut voir des Africains qui passent par l'Amérique du Sud pour essayer d'atteindre les États-Unis. Ouais. Souvent, ben, pour passer du Panama à la Colombie, c'est en pleine forêt, la forêt de Darien. Endroit très dangereux, on y trouve toutes sortes d'animaux sauvages, des rivières au courant très fort, des groupes criminels qui n'hésitent pas, sous la promesse de vous guider, là, à t'extorquer. En 2022, le gouvernement panaméen a recensé officiellement 52 personnes mortes dans la forêt, mais on sait que le nombre réel de décès est probablement beaucoup plus élevé. Donc voilà, la surveillance et les renvois vont s'amplifier dans les mois et les années à venir. C'est la promesse du nouveau gouvernement très conservateur du parti Realizando Metas, ou en français, réaliser des buts. Donc pour atteindre le Panama ou d'autres pays de l'Amérique centrale, les migrants vont forcément tenter d'ouvrir de nouvelles routes tout aussi dangereuses ou même utiliser davantage la mer.
Ben oui, c'est sûr.
Donc dans la mer des Caraïbes.
Exact. Mais c'est un peu, puis les États-Unis, ben dans le fond, ils font un peu ce que certains pays européens font avec d'autres pays, c'est-à-dire...
C'est comme des avant-postes de leur forteresse. Là,
exact, ça va être de plus en plus ça. J'ai l'impression. Merci Simon, on va te retrouver dans quelques secondes. J'aime beaucoup ce marqueur. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Mais avant de continuer avec Simon, on revient quand même au Canada, où, selon une récente étude, les personnes détenues ont beaucoup plus de chances de mourir prématurément que le reste de la population. C'est la première fois au Canada qu'il y a une base de données aussi exhaustive compile les décès survenus dans les prisons fédérales et provinciales, les voitures et les postes de police, les palais de justice, les centres de détention pour personnes migrantes ou mineures et les institutions de psychiatrie légale. Le premier constat qui ressort des données compilées par Track In Justice, qui regroupe des chercheurs de 3 universités ontariennes ainsi que l'Association canadienne des libertés civiles, c'est que depuis l'an 2000, plus de la moitié des décès de personnes détenues dont la cause est connue auraient pu être prévenues. De plus, l'âge moyen des personnes décédées est de 44 ans, soit à peine plus de la moitié de l'espérance de vie au pays, qui s'élève à 81 ans. Et même si le groupe de chercheurs précise que la cause de 45 % des 2131 morts inventoriés leur est inconnue, il a quand même pu déterminer que les décès sont anormalement souvent causés par des suicides à 21 % et des surdoses à 14 %, ce qui, selon les chercheurs, témoigne du désespoir vécu dans le système carcéral. Et puis l'autre constat, c'est que 12 % des personnes sont mortes en détention de cause médicale connue bien avant leur mort et que 7 % sont décédés à cause d'un problème médical imprévu qui n'a pas été traité à temps, ce qui fait dire aux chercheurs aussi c'est qu'ils mettent en doute la capacité des prisons de fournir aux personnes détenues une aide médicale convenable. Et autre chiffre troublant, environ le quart des personnes décédées en détention n'avaient pas encore été reconnues coupables des crimes dont on les accuse, dont on les accuse au moment de leur mort. Donc, c'est 328 personnes ou 15 % qui étaient détenues en attente de leur procès et 279 ou 13 % étaient détenues par des policiers. En 2010, ce sont 72 personnes qui sont mortes en prison, puis le nombre de décès a augmenté progressivement jusqu'à atteindre un sommet de 169 en 2021. Et si on prend toute la période couverte par la base de données, qui est de 2000 à 2024, le nombre moyen de morts par année s'élève à 87, mais il grimpe à 118 si on se concentre seulement sur la période 2013-2023, ce qui suggère une importante augmentation. Mais les chercheurs appellent quand même à la prudence là, dans l'interprétation des résultats parce que, ben, d'abord, les données plus anciennes ont souvent pas été numérisées et sont donc pas nécessairement accessibles. Puis les données récentes, elles, sont difficiles à obtenir, entre autres parce que les enquêtes des coronaires peuvent prendre jusqu'à 7 ans à aboutir. Les résultats sont un peu faussés. Mais aussi, la pandémie a fort probablement affecté les données les plus récentes. Mais là, il est encore trop tôt pour tirer cette conclusion-là, selon les chercheurs. Fait que c'est quand même intéressant qu'il y ait, enfin, je peux pas croire que c'est la première fois qu'il y ait une telle étude au pays. Ça met bien la table pour toi,
ouais,
Simon.
Mais qui vient non pas des autorités, mais de
oui, exact,
de
c'est indépendant. C'est ça.
Oui, ben en tout cas, quand la détention équivaut finalement à la peine de mort...
Sans qu'elle soit officielle, effectivement.
Sans qu'elle soit dite. J'ai 4 nouvelles brèves en rapport avec le racisme. 4 nouvelles qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, à part qu'on est au Québec et au Canada, et que ça expose pas le meilleur de nous-mêmes.
J'imagine.
Premièrement, ça fait le tour des salles de nouvelles, une nomination au Sénat non seulement unilatérale, mais surtout très douteuse du gouvernement Trudeau, celle de Charles Adler. Un choix qui a choqué plein de monde, dont l'Assemblée des Premières Nations du Manitoba, qui nous rappelle que M. Adler a déjà tenu des propos horribles à la radio à Winnipeg, des paroles tellement racistes et méprisantes que même après plusieurs années, ça passe toujours pas. À ce que je sache, il ne s'est jamais excusé de décrire les Autochtones, attention, comme des crétins, des paresseux, des gens non civilisés. Donc, on était vraiment dans le fond du baril.
Oui.
En bon mâle blanc, bien fragile, un peu comme certains qui veulent une fierté hétéro ou qui crient « All lives matter », il avait lancé la Adler Nation en réponse à la reconnaissance de plus en plus grande des différentes nations autochtones. Charles Adler est un ultra-conservateur qui est souvent décrit dans les médias anglophones comme le Rush Limbaugh canadien, pour les gens qui connaissent. C'est pas une référence, c'est très flatteuse,
c'est pas
disons.
Une qualité.
Bref, même à l'intérieur du cabinet Trudeau, ça crée un grand malaise. Il y a Dan Vandal, le seul ministre autochtone fédéral, considéré pourtant comme très loyal envers le parti, qui a publié une lettre ouverte pour joindre sa voix à celle de l'Assemblée des Premières Nations du Manitoba, pour demander l'annulation de cette nomination et dire en même temps qu'il y a beaucoup d'Autochtones au Manitoba qui seraient beaucoup plus compétents pour le poste de sénateur à pourvoir, mais rien n'y fit. Trudeau a maintenu la nomination sans trop la commenter et la semaine prochaine, Charles Adler fera sa grande entrée au Sénat, dont les travaux reprennent après les vacances d'été et il va être amené à se pencher sur des projets de loi qui, entre autres, vont toucher les Premières Nations.
Oh, ça promet, Mathieu, tu voulais ajouter quelque
chose?
Bien,
juste dire en plus qu'il a été nommé sénateur du Manitoba, mais il est de Colombie-Britannique, fait que c'est vraiment absurde comme situation.
C'est parce qu'à l'origine, il vient du Manitoba, mais c'est un résident depuis très longtemps de Colombie-Britannique.
Ça n'a pas rapport. Là.
Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas quelles pressions ont mené à sa nomination, mais je serais très curieux. On quitte Ottawa, on revient à Montréal, dans le West Island. D'autres nouvelles qui ont défrayé les manchettes, ça s'est passé le 4 août à Delors-des-Ormeaux, où une fusillade intense, 40 projectiles tirés entre les policiers et une personne en fuite. Ça s'est passé devant la résidence de la famille Abdallah, qui se trouvait sur place. Les parents et leurs enfants arrivaient de voyage et déchargeaient la voiture. Ils ont essuyé...
Welcome home!
Oui, une très belle bienvenue... à Didio. Donc, ils ont essuyé des balles perdues. Le père et un des fils ont été atteints à plusieurs reprises, blessés assez gravement, sans toutefois que leur vie soit en danger. Le père a quand même reçu 5 balles, puisqu'il s'est mis devant les enfants pour les protéger. Ça a dû être extrêmement traumatisant, mais le pire, c'est le traitement que la police a réservé au père et au fils en les traitant comme des suspects, immédiatement après la fusillade. Ils ont été menottés et laissés abandonner, gisant dans leur sang sur le sol, sans aucun soin, pendant 1 heure. Ils auraient pu en mourir. Une fois arrivés, les ambulanciers ont réussi à obtenir des policiers qu'on retire les menottes au père, mais pas au fils, qui a été transporté à l'hôpital en ambulance, menottes au point. La mère de la famille, Mme Eljoundi, en conférence de presse, elle a dénoncé à la fois le Bureau d'enquête indépendant et la SQ, qui sont extrêmement avares d'informations. On serait contenté de lui dire que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que l'enquête aboutisse. Donc, c'est à peu près la seule information qu'on lui a donnée. Elle dénonce aussi le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, qui, plutôt que de lui proposer de l'aide, lui a suggéré de se tourner vers ses proches et sa communauté pour organiser des collectes de fonds. Ce que nie le CAVAC, donc là-dessus, difficile de trancher, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments très troublants dans cette histoire. Et le CRAR, le Centre de recherche Action sur les relations raciales, entend suivre de très près l'évolution du dossier. Et nous aussi, on vous tiendra au courant des développements.
Oui.
Je poursuis avec les deux dernières brèves de ce segment qui parle de racisme, le racisme anti-noir dans les écoles montréalaises. Je terminerai avec ça. Mais d'abord, le racisme de l'extrême droite qui cible de plus en plus les personnes d'origine sud-asiatique en général et plus particulièrement les hommes de la communauté sikh. C'est ce que constatent entre autres des chercheurs du réseau canadien anti-haine, plus souvent connu dans cette dénomination anglaise, le Canadian Anti-Hate Network, un organisme qui surveille les groupes et les crimes haineux au Canada. On constate de plus en plus de discours haineux à l'endroit des sikhs. Souvent, ça vient de comptes sur les réseaux sociaux d'influenceurs de droite ou de pseudo-médias. On propage des théories du complot à leur sujet. On les blâme pour la crise du logement, pour le chômage. On répète que les membres de cette communauté ne seraient pas chez eux ici et devraient retourner en Asie. On les filme ou on les photographie. On partage le contenu sans autorisation et avec de la désinformation. Et on assiste évidemment sans surprise à une augmentation des gestes violents à leur endroit. La militarisation du ton employé par les extrémistes n'est pas étrangère à l'augmentation de cette violence, puisqu'on parle carrément de guerre qu'il va falloir mener contre les soi-disant envahisseurs, ce qui incite quand même assez directement à la violence physique qui vise spécifiquement les hommes qui portent le turban, surtout. Il y a d'ailleurs quelques cas rapportés dans les dernières semaines d'hommes menacés de mort dans la rue, de turbans arrachés, de toutes sortes d'invectives. En ligne, il y a des organismes qui comptabilisent les publications racistes et sur certaines plateformes, on constate que les déclarations anti-sikhs ont doublé, parfois même triplé, dans les derniers mois. Donc, semble-t-il que les communautés LGBTQ+, soient plus ou moins mises de côté par l'extrême droite actuellement, pour l'instant, puisque la nouvelle cible de prédilection, c'est les sikhs. Ils fonctionnent comme ça, les influenceurs haineux, avec leur souffre-douleur du moment. Ils le font toujours en tir groupé, se mettent ensemble contre un groupe spécifique et encouragent leurs milliers de suiveurs, en général très influençables, à embarquer dans la parade. Paradoxalement, dans cette spirale de haine, l'extrême droite s'est trouvée des alliés circonstanciels inhabituels auprès de certains groupes indiens ultranationalistes, dans la mouvance du parti du premier ministre Modi, qui est surtout connu pour ses positions islamophobes, mais qui est aussi très violemment anti-sikh. Il y a le terme « sikhophobia » qui existe déjà en anglais. Je pense qu'on va devoir adapter une traduction française avec « sikhophobie ». Je lance ça. Je vous invite donc à lire dans pressprogress.ca un article dont le titre est « Canada's far right is targeting South Asian and Sikh Canadians to incite anti-immigrant hate ». Pivot.Québec a publié une traduction sous le titre un peu plus court « Les Canadiens sikhs et sud-asiatiques, nouvelle cible de l'extrême droite anti-immigration ». Maintenant, si j'ai une minute et demie, le racisme anti-noir dans les écoles à Montréal, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que le média laconverse.com publie une longue entrevue avec la consultante Kemba Mitchell, qui offre depuis quelques années des ateliers sur le racisme anti-noir aux élèves, mais aussi aux professeurs. L'entrevue est vraiment intéressante. On parle davantage de racisme, plus souvent inconscient qu'intentionnel au niveau professoral ou administratif, de différences de traitement, parfois subtiles, parfois plus flagrantes, comme des accusations plus facilement portées ou encore des sanctions inéquitables envers les élèves noirs, et un certain déni ou même des réactions hostiles de certains enseignants quand on les questionne sur ces disparités de traitement entre élèves noirs et blancs. Évidemment, il y a le racisme entre élèves qui est plus direct, qui peut être carrément impitoyable. Oui. On est plus au niveau des insultes et de l'intimidation. Et les réactions de direction d'établissement qui vont de l'indifférence à l'impuissance par rapport au racisme de vestiaire ou de cours d'école, mais qui rarement prennent des moyens vraiment coercitifs. Donc, c'est ce manque général de réactivité qui a poussé Mme Mitchell à monter des ateliers dans le but de faire bouger les choses, souvent avec l'approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui est davantage axée sur la sensibilisation plutôt que la culpabilisation. Elle offre aussi des ateliers destinés exclusivement aux étudiants noirs pour apprendre à mieux naviguer dans notre système scolaire et essayer de pallier au déficit d'ambition de certains élèves qui sont affectés par le climat négatif qui les entoure et qui ont un peu internalisé le stéréotype comme quoi ils seraient moins bons que les autres élèves. Mme Mitchell dénonce aussi la disparition du cours éthique et culture religieuse pour le remplacer par le cours culture et citoyenneté québécoise qui réinvisibilise plusieurs réalités culturelles pour remettre celle de la majorité au centre de l'attention. Bref, son expertise dans Mme Mitchell semble enfin reconnue puisque les directions d'école font parfois appel à elle, surtout après des incidents graves. Mm. On s'entend rarement dans un contexte
de prévention.
De prévention, exactement. Mais on sent quand même, selon elle, quand même une volonté de, de parler au moins de ces sujets-là, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, le titre de l'article est « Racisme anti-noir dans les écoles montréalaises, parfois banalisé, parfois flagrant » sur laconverse.ca.
Ouais. Merci, Simon. Là-dessus, merci. On s'en va en musique.
Prendre off à la dernière minute de même, là, c'est comme si t'avais envie de chier, t'avais un bol, t'avais notre face, tu choisissais notre face. Oh. Ça, c'est un coup de pied dans la porte, il est classe. Je pense qu'il est dans le bon mot. J'entends qu'elle s'en le pas pour deux. C'était pas un choc sérieux. Mon boss est en crise. Il est vraiment pas content, big.
Je ferai un prêt comme Primo, puis je le loue. Un matin, me lève pas, y'a du monde de debout. J'ai appelé à la réception, j'ai dit ceux qui prennent off. Mon petit tabarnak, tu me suis mis dans un shot. Mais au courir, j'suis trop dead, faut que je relaxe. J'fais gaffe là, c'est broupi, passe à grosse terrasse. Saint-Lô, Saint-Cat, c'est pas du rap, c'est plein de crack. Mon boss me parle mal, puis j'suis pas un pare-balle. C'était si j'suis sensible, mon sourire c'est pas le vrai. Deux autres c'est un crise, parce que ça fait pas de prêtre. De l'amour, y'en aurait pour tout le monde, ça attaque. Fourbure, fume donc du bon site. J'ai vraiment de la misère, faut dire quoi fois. Rien qu'à 20, tu t'es si gros, j'tire ta chaise. J'suis toujours motivé pour mettre les sales punchies. Ding dong, c'est que seul patron à l'entrée.
J'ai écrit 9 à 5 sur mon premier album. Fuck mon job, fuck mon boss, fuck it, I'm done. J'avais 19 ans, j'ai choisi de vivre dans le vent. Mais le prix d'aujourd'hui c'est pas mon prix d'avant. Sans économie ni parents riches, t'apprends vite. Le poids des factures à chaque mois, le cadre antique. Tac, un 9 à 5, ça me rend triste. Fac, faut que j'agrandisse chaque talent qui se cache. Au fond de ma vision d'être un icône culturel. Mais à la télévision, ils montrent juste du rêve. La vie d'artiste, c'est un parcours fou, compliqué. Un lifestyle que les gens de mon crew ont quitté. Yeah, yeah, on se brûle par les deux bouts. Pour des vieux sous c'est fucked up comment le jeu joue. Mais parfois ton destin t'embrasse sur les deux joints. Donc t'endures les temps durs et ceux doux. C'est ça que la vie veut de nous. Enfin je crois, j'ai struggle maintes fois. Mais je n'y reviens jamais. Fuck it, au-delà du profit j'en profite autant que possible. Fuck le boss, c'est moi le boss bitch. J'ai travaillé pour le demeurer. Chaque épreuve est une preuve que j'ai réussi à me relever. Là je suis debout vivant ma vie comme une impro. La job, fuck les boss, fuck les
simples. Hey, hey, c'est quoi c'est dit là? C'est dit, j'suis pas dans le bon fils. C'est rentant, caille, c'est dans le pot pour deux. C'était pas la job, mais furieux. Mon boss est en crise.
Tu vas rentrer dessus, tu vas pas chier.
Mon boss est pas content. Shit.
On vient d'entendre la pièce « L'employeur », si vous ne l'aviez pas compris, de l'artiste visuel et rappeur montréalais Monkey, qu'on avait reçu en entrevue Les Apatrides, oui, en juin 2022. Mmh. Le morceau est tiré de l'album « Correspondance akashique », paru en juillet et co-réalisé par Saint-Sucré, qui est également rappeur et aussi producteur et qui a composé la musique de cet album, Correspondance akashique, qui figure au palmarès local de choc. Avant de retrouver Mathieu,
oui.
je reviens avec un article en fait du Devoir qui a été publié dernièrement sur les difficultés pour les artistes étrangers de s'installer au Québec. On y parle du cas de Yuma Arias, une artiste de cirque d'origine mexicaine qui vit à Montréal depuis 8 ans. Elle est arrivée au pays en 2016 pour étudier à l'École nationale de cirque, qui est une des écoles artistiques les plus prestigieuses au pays. C'est vraiment compliqué d'y rentrer. Et depuis l'obtention de son diplôme, 4 ans plus tard, elle a travaillé pratiquement là, sans arrêt. Elle a fait par exemple partie du spectacle « Jusqu'à ce qu'on meure » de Brigitte Poupard, qui est allée tourner jusqu'à Lyon. Elle fait actuellement partie d'un collectif qui a remporté la bourse des 40 ans de l'ENC, l'ENC étant l'École nationale de cirque, pour créer un spectacle qui est maintenant en tournée puis qui va se rendre en Espagne ce mois-ci. Et elle fait aussi partie du spectacle de théâtre acrobatique Bataille, programmé en français au Centre national des arts à Ottawa en 2025. Le hic, c'est que les travailleuses autonomes, comme c'est devenu la norme dans le milieu du cirque, et donc comme elle n'a pas de statut d'employé, ben elle ne récolte pas assez de points entre guillemets en tant que travailleuse qualifiée et peut pas non plus se tourner vers le programme d'expérience québécoise pour les travailleurs temporaires. Les contrats sont pas des emplois en continu, même si bon, sa discipline nécessite un entraînement là continu, lui mm-hmm. est régulier ou. Et même si elle passait le seuil éliminatoire là, de la grille de pointage élaborée par Québec, ben son dossier aurait aucune chance d'être sélectionné pour la résidence permanente parce que une fois dans le bassin Arima, elle serait pas assez compétitive et serait donc jamais sélectionnée. Puis de toute façon, ben son diplôme de l'ENC est même pas reconnu par le PEC. Fait que il existe un programme là, pour les travailleurs autonomes au Québec, mais il faut avoir 100 000 $ en banque. Alors, on oublie ça.
Ouais.
Dans le reste du Canada, ben, il y a le programme d'immigration des travailleurs autonomes qui vise là, directement les artistes et les sportifs de haut niveau, mais là, il est sur pause en ce moment. Puis ben, ça veut pas dire qu'un ou une artiste qui travaille au Québec est prêt à quitter la province là, pour autant. Mm-hmm. Bref, c'est de toute une richesse culturelle et artistique dont le Québec se prive avec ce genre de blocage-là et en plus de briser la vie et les projets de personnes qui vivent et travaillent ici depuis plusieurs années. Je termine avec une suggestion de lecture d'un article du média indépendant La Converse. Coudon, on fait la part belle à ce média aujourd'hui.
Avec Pivot, évidemment.
Oui, qui parle du parcours migratoire très difficile d'une femme dont le nom fictif est Désiré et qui a fui les violences sexuelles en RDC vers l'Afrique du Sud, puis ensuite vers le Royaume-Uni et pour finir par demander par l'asile au Canada. L'article de Laura Bell-Fadla s'intitule « Demander l'asile quelques semaines avant d'accoucher, le cauchemar administratif de Désiré ». Je vous laisse deviner la suite. Et donc, on retrouve maintenant Mathieu avec d'autres nouvelles en lien avec l'immigration au Québec et au Canada, plus particulièrement sur nos beaux autres services.
Oui, plus politique, je dirais, même si tout est politique. Donc, ben, le concours de qui tape le plus sur les migrants est lancé depuis quelques mois. Il va se continuer jusqu'aux futures élections fédérales et provinciales, j'imagine. Donc, Trudeau a annoncé la semaine passée, à son tour, une réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires, comme l'avait fait François Legault la semaine d'avant. Pour l'heure, il réduit l'accès au programme des travailleurs étrangers temporaires à compter du 26 septembre, c'est bientôt. Le gouvernement refusera de traiter les études d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est l'espèce de patente d'études pour qu'un employeur puisse engager un travailleur étranger.
Ouais.
Donc, pour les postes à bas salaire dans les zones métropolitaines où le taux de chômage est de 6 % ou plus. Bon, c'est un peu technique. Il y aura des exceptions pour les emplois saisonniers ou non dans les secteurs de l'agriculture, la transformation des aliments, la santé et la construction. Le pourcentage d'embauche pour les postes à bas salaire diminuera de 20 à 10 % de l'effectif total d'un lieu de travail.
Ouais.
Et leur durée maximum sera réduite de 2 à 1 an. C'est quand même, c'était un acquis à l'époque d'avoir des contrats de 2 ans.
Ouais.
Le gouvernement envisage également de modifier les volets des postes à haut salaire. Haut salaire, c'est en haut de 27 $ de l'heure.
Okay.
Ça dépend des régions, mais c'est pas nécessairement des gros salaires.
Non.
Le premier ministre a donné 90 jours au ministre Randy Boissonneau pour procéder à un examen accéléré pour les postes à haut salaire. Ces changements ajoutés à d'autres mesures déjà annoncées devraient réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires d'à peu près 65 000 participants dans les prochains mois, selon le ministre Boissonneau. Le Conseil du patronat du Québec a rapidement désapprouvé les nouvelles restrictions au programme parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. François Legault et Christine Fichette avaient annoncé quelques jours avant qu'ils limiteraient le nombre de travailleurs étrangers temporaires à Montréal seulement, sur l'île de Montréal, mm-hmm. en imposant un gel de 6 mois dans la délivrance des permis. Ils veulent également présenter un projet de loi pour réduire le nombre d'étudiants étrangers dans l'ensemble du Québec dans les prochaines semaines. Mais est-ce que ça a rapport avec la prochaine nouvelle? Le programme travailleurs étrangers temporaires alimente les formes d'esclavage moderne selon un récent rapport de l'ONU. Mais je pense pas que ça a lien avec ce que je viens de dire. Hein?
Que c'est pour ça...
Qu'ils ont diminué le nombre de travailleurs étrangers, je pense pas.
Hein? Non, parce que là, ils viennent, comme tu le dis, ils viennent de réduire de 2 ans à 1 an les... Fait qu'ils sont encore plus temporaires.
Exactement, et victimes potentielles d'esclavage moderne. Selon le rapport de l'ONU, des travailleurs migrants recrutés dans ce cadre peuvent entre autres subir des abus de toutes sortes, être licenciés et renvoyés dans leur pays d'origine sans aucune forme de recours. Le rapport a été publié au terme d'une visite du rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, du 23 août au 6 septembre 2023, l'année passée. Il avait visité Ottawa, Vancouver, Moncton, Toronto et Montréal.
C'est ça, ça c'est le rapport final de sa visite de l'année passée.
Exactement, il y a un an, c'est ça.
Parce qu'on vous en avait parlé On en avait parlé.
On fait une couple d'années qu'on en parle à chaque année de ce rapport-là qui répète toujours les mêmes choses. Non, dans le dossier Marie-Ève, oui. Québec réduira finalement ses missions de recrutement à l'étranger. Tu en avais parlé deux fois.
Oui.
Ça a été annoncé en même temps là, que la réduction des travailleurs étrangers à Montréal.
Hein?
Oui, tout à fait. Depuis son arrivée au pouvoir, François Legault a multiplié les déplacements internationaux. Le gouvernement, pas là, lui-même, là, a multiplié les déplacements internationaux afin d'attirer des immigrants tout en jetant le blâme sur Ottawa pour la hausse majeure de l'immigration au Canada. Oui. Les missions de recrutement financées notamment par des fonds publics québécois vont être nettement revues à la baisse. On rappelle qu'au cours des 5 dernières années, le ministère québécois de l'immigration a mené plus de 60 missions d'embauche à l'étranger. Des milliers de personnes ont ainsi pu s'installer dans la province par l'intermédiaire du fameux programme des travailleurs étrangers temporaires. Jusqu'à présent, les profils recherchés par Québec étaient extrêmement variés, allant de l'aérospatial à l'industrie des jeux vidéo, en passant par le camionnage ou la transformation des aliments. Québec songe désormais à limiter ses missions intentionnelles à quelques secteurs clés comme...
La santé, la construction, la transformation des aliments.
Oui, exactement. Toujours dans ce contexte foisonnant de nouvelles sur l'immigration, mais il y a eu plein de lettres ouvertes et chroniques récentes. Je vais vous en nommer une couple comme ça. Une qui s'appelle « Pour en finir avec les permis de travail fermés », publiée le 22 août par la TCRI, la table de concertation pour les réfugiés, au service des personnes réfugiées et immigrantes. Un texte de la CSN, le 24 août, « Le gouvernement Legault silencieux sur cette forme d'esclavage moderne ». Un extrait, « François Legault annonçait ces derniers jours un gel de 6 mois pour l'octroi de permis de travail dans le cadre du PTET à Montréal. » À partir de... Ça a commencé le 3 septembre, la réduction.
Ouais,
ça a été annoncé 2 semaines à l'avance. Donc, disons les choses comme elles sont. Cette annonce ne réglera rien. Là, c'est le texte de la CSN. Peut-on vraiment tenir 3500 travailleurs et travailleuses œuvrant dans des conditions extrêmement précaires, responsables de la crise du logement, du manque de personnel et de ressources dans les services publics et de la précarisation du français à Montréal, comme l'avance François Legault?
Poser la question, c'est y répondre.
C'est y répondre. Hein? Une chronique dans la presse, un coup d'épée dans l'eau. je lis un extrait aussi. Les avocats spécialisés en immigration sont sceptiques. Beaucoup plus de tracasserie administrative, mais pas beaucoup de résultats rapport à l'annonce de Legault. On parle des travailleurs du programme gagnant moins de 57 000 $ par année, seulement à Montréal, je le rappelle. Les permis fermés qui arrivent à échéance ne seront pas renouvelés. On n'étudiera pas de nouvelles demandes. Mais attention, les travailleurs de la santé, de l'éducation, de la construction, de la transformation alimentaire, de l'agriculture sont exemptés. Il va rester la restauration, le tourisme et le commerce de détail.
Ah.
C'est que c'est ça, les 3500, ils sont dans ces secteurs hautement stratégiques.
Hey, je te dis qu'on va en faire, on va en libérer des logements avec ça. Hein?
Oui. Sinon, ben je savais pas, mais dans l'article aussi, plus généralement, les avocats sondés sont unanimes. Depuis juin, le gouvernement québécois multiplie les intentions de refus dans les dossiers d'immigration. Ben, le ministère, finalement, on voit que ça accroche un peu plus à tous les niveaux, a déclaré un avocat. Le nombre d'intentions de refus a énormément augmenté par rapport au début de l'année. Des fois, c'est juste une case qui est pas cochée. Toute la documentation est là, mais on renvoie le dossier au complet, puis on ajoute des délais. Donc, il y a une volonté. Tu sais, on parlait qu'ils voulaient réduire de toutes sortes de façons l'immigration, mais là, on voit qu'au niveau bureaucratique, au niveau de la fonction publique...
Ils prennent toutes sortes de moyens, là.
Exactement. J'ai le temps pour une dernière...
Oui.
Ben, un article de l'Iris sorti récemment, le 28 août, qui s'appelle « Les fausses nouvelles du gouvernement Legault sur l'immigration ». Je lis le premier paragraphe, c'est Anne Plourde qui l'a écrit. Alors que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, affirme depuis plusieurs mois que les retards dans l'implantation des classes de maternelle 4 ans sont causés par l'arrivée d'immigrants temporaires, on apprenait cette semaine qu'il n'en est rien. Contrairement à ce que le ministre affirmait encore il y a 2 semaines, aucun des centres de services scolaires interrogés au Québec à ce sujet n'a fermé de telles classes pour ouvrir des classes de francisation. Cette fausse nouvelle n'est que la dernière en date d'une longue série d'affirmations douteuses du gouvernement Legault sur l'immigration. Fait que c'est un texte à lire sorti tout récemment.
De Anne Plourde, tu dis?
Oui.
Sur le site de l'Iris?
Oui, exactement. Les fausses nouvelles du gouvernement Legault sur l'immigration.
Ben, merci Mathieu.
Fait plaisir.
Ben, comme tout est dans tout, ma première suggestion à l'agenda est une exposition de photos en plein air et qui met en scène des artistes montréalais issus de l'immigration, musiciens, musiciennes,
ben oui.
Danseurs, danseuses, écrivains, écrivaines, qui ont dû trouver là, leur place ici et tout reconstruire là, pour retrouver un peu la notoriété qu'ils avaient dans leur pays d'origine. La série est l'œuvre de la photographe d'origine colombienne Adriana Garcia Cruz, qui a immigré au Canada en 2006. Selon ses propres mots, ce sont des portraits qu'elle qualifie de processus psychologique. Donc, artiste immigration, telle est titulée l'exposition, est au parc Ottawa, dans Montréal-Nord, jusqu'au 30 avril 2025. Donc, vous avez le temps.
On a le temps, hein?
Le 13 septembre, le collectif de recherche Action politique et démocratie organise une soirée cinéma avec deux courts-métrages engagés. Le premier, Loud and Here, de 2023, de Josiane Blanc, qui met en lumière le collectif La Voix des jeunes comptes et leur mobilisation contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Et le second, La souplesse du roseau, un autre film de 2023 de David Sanchez, qui explore les activités du groupe Mob 6600 pour la protection du terrain vague dans Hochelaga-Maisonneuve. La projection va être suivie d'une discussion avec des militants militantes de ces collectifs-là. C'est gratuit, popcorn et breuvage inclus.
Oh.
C'est à 17h au 385 rue Sherbrooke-S. J'ai regardé sur Google Maps. C'est vraiment juste au coin de Saint-Denis.
OK.
L'édifice où est-ce que le bonhomme blanc, la statue blanche. Là,
OK. Ah oui, oui, l'édifice de l'INRS.
Exact, mais je pense que l'INRS est plus là. De 13 septembre. Le 22 septembre, maintenant, se tient à Montréal le Festival Défense de la police, organisé par la Coalition pour le définancement de la police. On connaît pas encore tous les détails de la programmation, mais bon, j'imagine que ça va être un peu comme les éditions passées, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers puis de la musique. Je peux déjà dire que c'est un événement pour toute la famille. Il y a un service de garde avec des jeux. Il va y avoir de la bouffe gratuite, dont un repas chaud à 17h. C'est donc le 22 septembre de midi à 19h au Parc en Grignon. Autre événement, eh bien, pour souligner sa 15e année d'existence déjà, quand même le temps file, l'UPOP Montréal organise une soirée le 24 septembre où seront bien sûr dévoilés les cours de la session d'automne. Il y aura aussi une conférence sur l'éducation populaire, ce que fait l'UPOP, et on nous promet des surprises. C'est donc le 24 septembre à 19h à la Sala Rossa sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Villeneuve et Saint-Joseph. Et je termine en vous invitant à aller signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour que la Caisse de dépôt et placement se départisse de ses investissements associés à des violations du droit international dans les territoires palestiniens. Vous avez jusqu'au 21 septembre pour le faire. Vous avez rendez-vous sur le site de l'Assemblée nationale, tapez CDPQ, Palestine, droits humains, puis vous devriez tomber dessus.
Oui, c'est une lutte qui dure depuis quelques mois, là, avec le campement qu'il y avait eu devant la caisse et tout ça.
Oui, donc, c'est ça, mais là, comme ça achève, ça c'est ça, pas. C'est la date limite pour la signer, c'est le 21 septembre.
Oui.
C'est déjà la fin de l'émission qui, encore une fois, a passé beaucoup trop vite, je trouve. Surtout quand ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein?
Ben, on était sans toi il y a deux semaines, ben, Simon et moi, avec la super entrevue.
Mais vous êtes très bien débrouillés, je vous le confirme. J'ai écouté l'émission, évidemment.
Oui.
Merci. Oui, on avait Biff Hanson qui nous parlait justement d'investissement de la Caisse de dépôt.
Entre autres, c'est vrai. Effectivement.
Biff Hanson de Pivot, oui.
Je vous rappelle que pour les personnes qui habitent à Victoria, à l'autre bout du pays, vous pouvez nous écouter sur les ondes hertziennes du FM 107.9 de Radio Victoria deux fois par semaine. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page, sur le site de choc.ca ou encore sur notre site Internet apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@resist.ca et suivez notre page de Facebook, même si ils se mettent à boycotter tout le monde vraiment. On essaie quand même de relayer de l'information, dont des événements. Là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On fait une autre pause dans deux semaines. Puisque Simon et Mathieu m'abandonnent à mon triste sort pour aller se promener dans des contrées lointaines.
Le 19 septembre, il n'y a pas d'émission.
Non, et... on va donc se retrouver dans un mois, c'est-à-dire le 3 octobre, mais en duo avec seulement et moi, puisque Mathieu sera toujours en vadrouille, vadrouilleur qu'il est.
Oui, on va dire ça. Ouais.
Picassiette.
Ben non.
On va se laisser donc en musique avec le trio féminin londonien Goat Girl ou Fille Chèvre et la pièce Wasting tirée de leur tout premier album Below the Waste. Attention, Waste, W-A-S-T-E, comme dans déchets et non pas comme dans taille, comme ça se prononce, hein, de l'expression. Alors, c'est un ingénieux jeu de mots. C'est un album qui est paru en juin, est en 6e position du palmarès international de Choc. Et sur ce, ben, on vous dit merci d'avoir été à l'écoute.
On invite les gens qui écoutent en direct à aller à la place Pasteur, hein, de 20h30. Ben oui. C'est Le Roi, la Rose et le Loup. Le spectacle.
Pour je pense que c'est la dernière soirée ou il y en a encore?
Dernière soirée de la rentrée du CAM.
Ben là, profitez-en, là, étudiants, étudiantes, oyez, rendez-y, vous-y.
Tout de suite.
Tout de suite.
Voilà. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Can't